Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, Brexit dans une semaine, dans trois mois ou dans un an, les hypothèses se multiplient. Theresa May propose de reporter au 30 juin. Cela voudrait dire que les Anglais, sur le point de partir, participeraient tout de même aux élections européennes. Oh my God. Qui a marqué des points, qui en a perdu hier? Premier grand débat des européennes sur France Inter. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter. Alors,
prime au nouveau visage, cure de rajeunissement, mais pas de jouvence pour Nathalie Loiseau, la candidate piégée par le tous contre Macron. 12 nuances d'Europe, les Français vont pouvoir entrer en campagne.
A tout de suite pour les détails. La commission d'historiens pour faire la lumière sur l'attitude de la France au Rwanda est-elle réellement indépendante? Controverse, alors que ce week-end marque les 25 ans du début du génocide. L'invité de ce journal, le nouveau visage de l'Église de France, Monseigneur de Moulins-Beaufort, élu président de la conférence des évêques cette semaine. Première interview, alors que les scandales ternissent toujours plus l'image de l'Église. Dans cette édition encore, des médicaments en supermarché et plus facilement sur Internet. La ministre de la Santé prend ses distances avec l'autorité de la concurrence. La mort d'un grand homme de radio, Jean-Pierre Farkas, voix d'RTL, le journal inattendu, puis directeur à France Inter, ici dans les années 80. L'actualité des médias, c'est aussi pas de BFM sur la Freebox depuis aujourd'hui. Le groupe Altis, qui possède la chaîne, et Free sont en conflit. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Température printanière.
Et oui Bruno, les maximales afficheront des valeurs assez proches, voire supérieures aux moyennes de saison, y compris entre 14 et 19 degrés. Prévoyez 14 à Lille et Strasbourg, 15 à Paris, 16 à Lyon, 18 à Toulouse et 19 à Perpignan. En revanche, ne prévoyez pas plus de 11 degrés à Brest, Cherbourg et Nantes sous la pluie. Et puis côté ciel, le temps sera quasi printanier et assez bien ensoleillé dans la plupart des régions, excepté le long de la façade atlantique. Votre après-midi sera pluvieux et venteux.
J'ai testé pour vous le vendredi dans ce journal de 13h. Aujourd'hui, fabriquer soi-même ses produits ménagers. Et puis un bébé lion de 46 000 ans en vedette. À partir de ce week-end, d'exposition à la Grotte Chauvet en Ardèche, cette momie fossilisée nous parle du rapport entre les lions et les hommes, du réchauffement climatique et de la vie qui est difficile sans maman. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Avec ce Brexit, chaque jour, on marche un peu plus sur la tête. La première britannique, Theresa May, demande officiellement un report au 30 juin désormais. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres. 30 juin, cela voudrait dire, Antoine, que les Britanniques, bien que sur le départ, participeraient aux élections européennes de la fin mai.
Absolument, c'est écrit noir sur blanc. Si le Royaume-Uni fait toujours partie des États membres le 23 mai 2019, il y aura des élections. Le gouvernement va d'ailleurs lancer les préparatifs en prenant un arrêté officiel pour fixer la date du scrutin. Nous ne pouvons pas rester dans l'impasse, écrit Theresa May, à cause de l'incertitude que cela crée au Royaume-Uni et parce que l'Union européenne souhaite légitimement prendre des décisions concernant son avenir. La Première ministre donc demande un report du Brexit au 30 juin avec la possibilité de partir plus tôt si les députés se mettent d'accord sur un scénario de sortie, scénario sur lequel on n'a pourtant aucun détail. J'ai rencontré le chef de l'opposition, explique Theresa May, j'ai invité les députés à travailler avec moi. Ces mesures montrent que le gouvernement a la volonté de trouver une solution. Le parti travailliste, de son côté, se dit prêt à trouver un terrain d'entente à condition d'organiser un nouveau référendum, mais ne donne pas plus de détails. Reste à savoir si ce sera suffisant pour convaincre les chefs d'État européens de valider ce report la semaine prochaine.
Alors justement, pas de réponse officielle de l'Europe pour l'instant. Deux réactions ce matin. Le Polonais Donald Tusk, président du Conseil européen, qui évoque carrément un report flexible d'un an. L'Élysée modère ses ardeurs. La France estime prématurée une demande de report faute d'un plan clair. Rappelons qu'une condition au report, du côté des Européens, c'est que les Britanniques présentent un plan de sortie crédible. Que dit-on de tout cela à Londres, Antoine ?
Oh non, on est surtout très en colère ici du côté des Brexiteurs face à cette possibilité de rester encore un an bloqué, disent-ils, dans l'Union Européenne. Theresa May est accusée d'être déconnectée de la réalité. On nous oblige à continuer à participer au budget. C'est une Brextorsion de fond, titre le Sun. Une dizaine de ministres menacent de démissionner. Et puis, il y a toujours du côté de la droite, Nigel Farage qui refait surface. L'ancien leader d'extrême droite se dit prêt à lancer une campagne pour les Européens avec un parti du Brexit, parti auquel pourraient participer plusieurs personnalités de la droite. Jacob Rees-Mogg, de son côté, promet une année d'enfer à l'Union européenne si on reste. On pourrait, par exemple, dit-il, bloquer les augmentations de budget, bloquer les décisions militaires, bloquer les idées intégrationnistes de Monsieur Macron. Voilà l'ambiance.
Merci Antoine Gignot. La très grande inconnue du Brexit alors qu'approchent les élections européennes. 1 900 000 téléspectateurs plus les auditeurs de France Inter. Hier, ont suivi le premier débat de la campagne. Yael Goz, choses. Comme promis, vous êtes avec nous. C'était le vrai début de cette campagne. Que retient-on de la soirée? Beaucoup de journaux titrent sur un débat parfois cacophonique. C'est ce qui vous a marqué aussi?
Non, moi ce que je vais retenir, c'est la première photo du nouveau paysage politique français. Après le dégagisme, on voit concrètement les effets d'une recomposition inachevée. Ça se voyait physiquement sur le plateau, l'éparpillement des gauches, ce souverainisme décomplexé et multitête, et un parti au pouvoir seul contre tous. Beaucoup d'hommes, encore hein, 10 sur 12, mais qui abandonnent la cravate, 5 sur 10. Changement de génération, changement de profil, à deux reprises, Raphaël Glucksmann insiste.
Je vais faire un pas de côté, je ne suis pas un politique professionnel.
Voilà, il le dit deux fois, pas non plus un pro du débat, pas content de lui, il le dira à ses équipes en quittant le plateau.
Bon, alors qui a crevé l'écran?
En tout cas, pas Nathalie Loiseau, mal préparée et qui n'a pas pris la mesure du tous contre Macron. Résultat, sur le même credo pro-européen, c'est l'UDI Jean-Christophe Lagarde qui s'en sort le mieux.
Et chez les souverainistes?
L'énergie, la jeunesse de Jordan Bardella, la tête de liste RN a particulièrement bien géré son chrono, ne laissant que peu d'oxygène à Nathalie Loiseau, sa voisine de pupitre.
Il y a un parti qui s'appelle ALDE, qui s'est fait financer par Monsanto.
Quel vôtre, hein?
Non, qui n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas de parti.
Monsieur Guérini, qui est d'ailleurs là, qui est présent au lancement de la ALDE.
Vous avez une grosse voix, c'est très bien, on l'a tous compris, mais laissez-moi parler.
Est-ce que c'est une autre campagne qui commence maintenant, Yaël?
Oui, on peut dire ça, Bruno. On sort du duel installé RN contre Marcheur. On a vu 10 autres nuances d'Europe hier soir. Les Français, vous le disiez, ont pas mal regardé l'émission. Environ 2 millions, c'est pas mal. Ils apprivoisent la campagne. Ils ont vu boxer l'insoumise Manon Aubry. Ils ont découvert ou redécouvert le communiste Yann Brossa, le frexiteur Florian Philippot et sa baguette de pain, Yannick Jadot et le dernier pot de miel d'une apicultrice victime des pesticides, le républicain François-Xavier Bellamy était venu, lui aussi, avec l'Odyssée d'Homère, mais trop lisse, trop transparent, le philosophe est resté à quai.
Et dans ce cadre de la campagne des européennes, les propos ce matin de Christophe Castaner, le ministre de l'Immigration. Faut-il y voir l'influence de l'Italien Salvini à Paris en cette fin de semaine? En tout cas, Christophe Castaner, dans le dossier de l'immigration, met en cause les ONG en Méditerranée.
Ce que nous savons, c'est que les ONG jouent un rôle essentiel pour apporter une aide aux migrants, cela ne fait aucun doute. Toutefois, en Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On a observé que certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables, souvent au péril de leur vie. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs. Les ONG doivent avoir une attitude responsable.
Un propos recueilli par Emmanuel Leclerc, Christophe Castaner, qui sera sur le pont à nouveau ce week-end. Nouveau week-end de mobilisation chez les Gilets jaunes. La France a-t-elle laissé s'accomplir le génocide des Tutsis au Rwanda? 25 ans après le déclenchement de ce génocide, toute la lumière n'est pas faite sur l'attitude des soldats français sur place à l'époque. Va-t-on donner aux chercheurs, aux historiens, les moyens de travailler? Alors que ce week-end sera un week-end de commémoration au Rwanda, Emmanuel Macron recevait ce matin une association de soutien aux réfugiés, aux rescapés, pardon, et il donne le nom des chercheurs qui composeront cette commission promise par la France. À sa tête, l'historien spécialiste du génocide Vincent Duclerc.
Cette commission de chercheurs, on lui accorde un pouvoir exceptionnel d'entrer dans les archives, toutes les archives publiques françaises. Grâce à ces archives, elle pourra aboutir à l'établissement des faits véridiques sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Et c'est effectivement la volonté du président de la République hein, que la France regarde bien en face, de très près, ce qui a été son rôle, son action au Rwanda. Et la mission sera absolument intraitable sur les faits qu'elle va mettre en place. Si jamais il y a un blocage, une impossibilité de travailler dans ces archives d'État, la mission le constatera aussi.
Alors évidemment, Vincent Duclerc défend sa commission. N'empêche. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour Bruno.
N'empêche, vous qui êtes à l'Élysée, il y a encore un doute hein, sur l'indépendance de cette commission.
Oui, c'est bien toute la question, parce qu'une commission, oui, mais avec qui dedans, ayant accès à quoi et pourquoi faire? Parce qu'elle va avoir 2 ans, cette commission, pour à la fois élucider le rôle de la France dans le génocide rwandais et élaborer un corpus sur lequel les enseignants vont désormais pouvoir s'appuyer pour enseigner l'histoire si sensible du génocide. Alors pour cela, il n'y aura pas de déclassification d'archives, mais la commission va être habilitée secret défense. Elle aura donc accès, vous l'avez entendu, à tout, hein, à toutes les archives de l'Élysée, du ministère de la Défense, de la DGSE. Mais là où le bas blesse, c'est bien sûr sur la composition de ce comité de chercheurs. 9 personnes et parmi elles, pas un spécialiste du Rwanda. En revanche, des spécialistes du génocide arménien, des spécialistes de la Shoah, comme l'historienne Agnès Wiborka, des spécialistes de la justice pénale. Alors, à l'Élysée, on se justifie, on dit que le but est méthodologique, le sujet est tellement clivant qu'il est impossible d'avancer jusqu'à présent entre antithèse et thèse. Donc, l'Élysée a choisi des gens qui connaissent le processus de décision publique, notamment pour comprendre comment les décisions ont été prises à l'époque, quelles informations ont été prises en compte ou pas, et c'est bien ce qui provoque l'inquiétude et la colère de ceux qui sont principalement concernés par le génocide rwandais. C'est la crainte en fait d'une commission trop univoque, aux contours lisses, dictée par l'Élysée, et on voit bien l'extrême sensibilité de ce sujet, où il faut à la fois ménager les partis en présence, l'armée, les politiques qui étaient en charge à l'époque, et répondre enfin aux victimes avec cet indispensable devoir de mémoire à effectuer et à affronter.
Dimanche, les cérémonies de commémoration du génocide à Kigali. Emmanuel Macron y était invité. Il a décliné l'invitation. C'est le député Hervé Berville qui représentera la France. Hervé Berville qui est orphelin Tutsi, adopté par une famille française en 1994.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
L'invité de ce journal est un des nouveaux hommes forts de l'Église de France, évêque d'Orléans et président élu de la Commission des évêques de France, élu cette semaine lors de la réunion annuelle de Lourdes. Il prendra ses fonctions cet été. Bonjour, Monseigneur de Moulin-Beaufort.
Bonjour monsieur, mais je ne suis pas évêque d'Orléans, je suis archevêque de Reims.
Oh là 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 là, ça commence très fort. Pardon pour cette énorme coquille. En tout cas, merci de réserver votre première intervention à France Inter. Et merci à Julie Pietri, spécialiste des questions religieuses à Inter, grâce à qui nous pouvons réaliser cet entretien. Un mot, Monseigneur de Moulin-Beaufort, pour qualifier l'ambiance en ce moment dans l'Église de France.
Alors, l'ambiance, si je dis dans la conférence des évêques, je pense qu'elle est, bonne. Nous sommes bien unis et bien déterminés dans ce que nous voulons faire. Dans l'Église de France, il est certain qu'au mois de, mars, février et mars ont été des mois difficiles où on a senti sous l'accumulation de révélations, la sortie du livre Sodoma, le reportage fait par Arte, on a senti la confiance des chrétiens les plus fidèles être ébranlée. Et non sans motif, il faut bien le reconnaître. Donc ça, c'est assez sensible et nous portons évidemment tout cela.
Alors la réputation qui vous précède, c'est celle de vouloir affronter de face les scandales sexuels. Des mots pour les dénoncer, pour les qualifier, il y en a eu beaucoup ces derniers mois, que ce soit au Vatican ou en France. Ce que les fidèles, et pas que d'ailleurs, attendent maintenant, ce sont des actes. Derrière cette expression de tolérance zéro, que mettez-vous? Est-ce que ça signifie que le moindre signalement d'un cas douteux, d'un cas suspect, doit être transmis à la justice désormais?
Ça veut dire que, personnellement, je n'aime pas beaucoup l'expression tolérance zéro, qui je trouve est une sorte de slogan un peu facile qui permet de se donner bonne conscience. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que si quelqu'un, un évêque reçoit ou quelqu'un reçoit la dénonciation d'un prêtre qui aurait commis des actes à l'encontre de mineurs, il faut pouvoir aboutir à un signalement au procureur. J'emploie ces expressions parce que ça dépend de chaque cas, ça dépend si c'est l'enfant mineur et mineur aujourd'hui, ça dépend si on est en lien avec ses parents, c'est pas la même chose si c'est un adulte qui vient raconter une histoire qui s'est passée auparavant, des années auparavant, mais de toute façon, aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons pas laisser des gens qui représentent un danger pour d'autres, un danger potentiel pour d'autres, en essayant de traiter ce cas nous-mêmes, il faut pouvoir s'appuyer sur la justice civile.
Alors, Monseigneur Pontier, qui est encore président de la Conférence des évêques pour quelques semaines, a marqué son étonnement, c'est le mot qu'il a employé, lorsque le pape a refusé la démission du cardinal Barbarin. Est-ce que vous aussi, ce refus vous a étonné?
Il m'a étonné au sens où tout le monde s'attendait, enfin l'opinion globale, c'est que le pape allait accéder à cette demande du cardinal Barbarin, qui était une demande du cardinal Barbarin. Après, la position du pape s'explique, donc oui, ça nous a étonnés. Dire qu'on est étonné ne veut pas dire qu'on conteste d'une façon ou d'une autre. Ce qui est sûr, c'est que ça met le diocèse de Lyon et surtout le cardinal Barbarin dans une situation un peu délicate.
Il faut clarifier davantage les choses.
Il faut dire, dans le cas du cardinal Barbarin,
oui.
Je pense que le procès a eu un effet très bénéfique, je crois. D'une part, il a permis aux personnes victimes de s'exprimer dans un lieu qui a une signification symbolique forte, c'est-à-dire une salle de tribunal. C'est une manière de s'adresser à la société tout entière et de se faire entendre et de faire entendre ce qu'ils ont vécu. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui ont suivi ces affaires de très loin, qui avaient suivi ces affaires de très loin jusque-là, en écoutant le procès, ont réalisé ce que vivaient les victimes. Et le film d'ailleurs de François Ozon a servi, sert aussi à cela. Et puis d'autre part, ça a permis au, le procès a permis de faire entendre, de faire sentir que le canal Barbarin et ses collaborateurs à Lyon ont pu commettre peut-être des erreurs d'appréciation, en particulier dans ce qu'attendaient les victimes, dans ce que représentait le père Prénat. Est-ce que c'est un délit, est-ce que c'est un délit, ben, c'est à la justice de l'apprécier, et c'est ce qu'elle a apprécié dans ce cas précis.
Récemment, une exhortation apostolique du pape, où il est question d'une large trame d'autoritarisme masculin dans l'histoire de l'Église. Comment faire plus de place aux femmes?
Alors l'autoritarisme masculin, je pense que ça ne concerne pas que l'Église, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande thématique qui vient sur le devant de la scène. Donc on se rend compte que les rapports hommes-femmes sont des rapports complexes, là où on pouvait penser qu'il y avait un certain équilibre, une certaine harmonie, un certain respect mutuel. En fait, il y a de la violence ou de la pression plus ou moins masquée.
Et comment fait-on plus de place aux femmes dans l'Église, Monseigneur de Moulin-Beaufort?
Ben, vous savez, les femmes, aujourd'hui, elles ont un certain nombre une bonne place dans l'Église. Dans un conseil, par exemple, dans le conseil épiscopal à Reims, il y a maintenant 2 femmes pour 4 hommes, donc on progresse. Et de ce point de vue-là, elles savent se faire entendre dans beaucoup de nos instances. Il y a plus de femmes, même d'ailleurs, que d'hommes. Mais cela dit, il reste la question plus large pour nous, en tout cas pour nous évêques, du travail des évêques et des prêtres et du travail de l'ensemble du peuple chrétien, donc de l'ensemble des laïcs, mmh. de l'ensemble des fidèles, hommes et femmes, mais parmi lesquels les femmes. Alors ça, c'est un point sur lequel je pense que nous pouvons avancer. C'est ce que recouvre le terme qui est souvent employé d'aujourd'hui, synodalité. Donc, oui. On peut dire qu'on essaie de travailler ensemble, et quels que soient les états de vie, les responsabilités, le fait d'être ordonné ou pas. Et là, je pense que nous pouvons progresser, et j'espère que nous allons pouvoir avancer assez vite là-dessus.
On a noté cette piste de travail. Merci beaucoup, Éric de Moulin-Beaufort, évêque de Reims et président élu de la Conférence des évêques de France, d'avoir répondu aux questions de France Inter en cette mi-journée. La prise de distance d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, avec l'avis de l'autorité de la concurrence. Elle est opposée à la vente de certains médicaments en grande surface. L'autorité de la concurrence veut également faciliter la vente de médicaments sur Internet. Écoutons Véronique Julien.
La vente concernerait des médicaments contre le rhume, le mal de gorge, Doliprane, Fervex, mais aussi les autotests de VIH par exemple, les lecteurs de glycémie et certaines plantes médicinales. Cette vente serait malgré tout très sécurisée. Elle aurait lieu dans un espace dédié avec une facturation distincte et la présence d'un pharmacien diplômé serait obligatoire. D'après l'autorité, cette ouverture à la concurrence pourrait permettre de faire baisser les prix de 15% si l'on s'en tient à des exemples chez nos voisins, en Allemagne notamment. De quoi réjouir évidemment les grandes surfaces, les centres locaux Claire en particulier, qui milite en ce sens depuis des années, mais les pharmaciens ont aussitôt réagi pour défendre leur monopole. Ils insistent sur la sécurité, les conseils à prodiguer aux patients, le risque de surdosage aussi. Un médicament n'est pas un bien de consommation courante, disent-ils. Un argument repris à son compte ce matin par la ministre de la Santé. Agnès Buzyn a d'ores et déjà indiqué qu'elle n'était pas favorable à cette évolution. Question de santé publique, question de maillage territorial aussi. La ministre reconnaît qu'en zone rurale ou dans les quartiers difficiles, la pharmacie reste un îlot, un repère, un premier recours indispensable dans un contexte de désertification médicale.
Sur vos télévisions, si vous êtes abonné à la Freebox, vous n'avez plus accès à toutes les chaînes du groupe Altice à partir d'aujourd'hui, la principale c'est BFM TV. Il y a aussi quelques petites sœurs, RMC Découverte et Story en particulier. Bonjour Alexandra Akoun.
Bonjour.
C'est une négociation commerciale, financière entre Free et Altice qui se passe mal.
Ah ben on peut même dire que le torchon brûle entre d'un côté Altice, qui estime que pour diffuser ses chaînes et avoir accès aux services qui vont avec, Free doit payer. Le groupe de Patrick Drahi réclamerait 5 à 6 millions d'euros. Et puis de l'autre, vous avez Free qui dit « Attendez, pourquoi devrait-on payer pour des chaînes de la TNT gratuites ?» Sur TF1, c'est TF1 en fait qui a ouvert la boîte de Pandore il y a quelques mois en réclamant à Canal+ rétribution pour la diffusion de ses chaînes. Free ne fait finalement qu'emboîter le pas aux nouvelles pratiques du secteur. Mais pourquoi exactement est-ce que là, ça coince? Difficile de le savoir, aucun des intéressés ne souhaite nous répondre. Est-ce qu'Altice est trop gourmand ou est-ce la corbeille de la mariée qui, selon Free, n'est pas assez fournie. TF1, par exemple, dans sa bataille avec Canal+, avait fini par ajouter des exclusivités pour les abonnés Canal, en plus des services de replay. Ce qui est sûr, c'est que ce matin, eh bien, c'était l'écran noir pour les quelques 6,5 millions d'abonnés Freebox, était, car dans un communiqué envoyé il y a quelques minutes, Free affirme que la diffusion des trois chaînes a été rétablie pour l'ensemble de ses abonnés, en vertu de l'article 1.1 de la convention passée avec le CSA, convention qui, je le cite, oblige ces chaînes à permettre leur reprise sur les réseaux ADSL et fibre. À vérifier, donc, en tout cas, sur Internet et smartphone, ça ne change absolument rien.
Merci Alexandra Akoun. L'actualité des médias, c'est aussi la mort d'un grand homme de radio, Jean-Pierre Farkas, grande voix d'RTL dans la première partie de sa carrière, le journal inattendu, puis directeur de France Inter de 84 à 86. Écoutez-le ici, au début des années 80, il parle de la grille de France Inter à un moment où Jacques Chancel et Radioscopie étaient dans le paysage et commençaient à s'estomper.
C'est ça le pari, c'est d'essayer sur l'après-midi de rendre la radio hebdomadaire et non plus avec des rendez-vous quotidiens horizontaux, comme on dit toujours dans notre jargon. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que je crois que le moment est venu, et toutes les radios cherchent à peu près la même chose en ce moment, de devenir un tout petit peu plus ambitieux par rapport à la télévision. Jusqu'ici, on était, je dis pas, presque résigné à ce que, lorsque la télévision s'allume, la radio ne fasse plus que de l'accompagnement. Bon, on va essayer, nous, d'offrir des produits complémentaires, concurrentiels de la télévision. Et ce que nous avons de mieux à offrir, c'est la personnalité des gens qui causent dans le poste, comme on dit, c'est-à-dire des animateurs avec des tempéraments, des sensibilités complètement différentes.
La voix de Jean-Pierre Farkas qui vient de mourir à l'âge de 86 ans. Nous allons maintenant parler d'un bébé lion qui a lui 46 000 ans, lion des cavernes, momie fossilisée, qui sera la pièce la plus spectaculaire d'une exposition consacrée aux félins qui ouvre demain à la Grotte Chauvet à Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche. Bonjour Sophie Besserel.
Bonjour.
Le petit lion s'appelle Ouyan et son histoire est riche et intéressante à beaucoup d'égards.
Il vient de Yakoutie, au nord-est de la Russie, là où 95% des terres sont gelées en permanence. Le réchauffement climatique est en train de changer la donne. Ouyan est apparu avec sa sœur jumelle Dina à l'été 2015 sur les berges d'une rivière en crue. Yakov Androzov, le découvreur, décide de sortir de sa tente pour inspecter les berges ce jour-là.
Et tout à coup, dans un effondrement, nous avons remarqué que quelque chose était visible. Ce qui veut dire que l'eau a érodé le rivage, une partie de la rive s'est affaissée et nous avons vu un morceau de fourrure. Nous sommes allés chercher les pelles, nous avons commencé à creuser et nous avons trouvé ces deux morceaux qui étaient sales. Nous les avons sortis et avons vu que c'était des lionceaux.
Ouyan ressemble à une petite peluche, particulièrement bien conservée. Les études de la momie permettent de reconstituer son histoire. À peine né, il a perdu sa mère. En effet, l'absence de bactéries issues du lait maternel dans son estomac montre qu'il n'a pas eu le temps d'être allaité. Cette découverte apporte la preuve de la présence aux côtés des mammouths, des bœufs musqués et des rhinocéros laineux d'un grand félin. Prédateur plus imposant que le lion actuel, le lion des cavernes est encore mal connu, faute de fossiles. Le professeur Albert Protopopov est vice-président du comité mammouth de l'Académie des sciences de Yakoutie.
Selon les données génétiques, la séparation entre les lions modernes et les lions des cavernes est intervenue il y a 300 000 ans. Et dans cette étude, si l'on veut les comparer, la grotte Chauvet est très importante parce qu'elle recèle beaucoup de dessins. Et la plus grande différence que l'on peut voir, c'est l'absence de crinière sur les dessins de ces lions des cavernes.
Ouyan, dans son armoire à moins 20 degrés, est à voir sur le site de France Inter et bien sûr à la Grotte Chauvet jusqu'au 22 septembre.
Des lions et des hommes, l'exposition temporaire ouvre demain. Merci Sophie Becherel. Les JO 2024 à Paris seront écologiquement irréprochables, promesse de la maire Anne Hidalgo. Du coup, peut-on accepter que Total soit sponsor, partenaire des Jeux ? Cécilia Arbona, la maire, vient d'écrire au comité d'organisation des JO à ce sujet.
Si Total n'est pas cité dans la lettre, son logo bleu, blanc, rouge et orangé se dessine clairement entre les lignes. Anne Hidalgo écrit qu'il serait, je cite, « très difficilement compréhensible pour nos concitoyens que soient retenues des entreprises dont l'activité aurait un lourd impact sur l'environnement ». Joint au téléphone ce matin, un proche de la maire décode « on ne peut pas travailler avec des sociétés productrices d'énergie fossile qui appartiennent, à nos yeux, à un monde révolu ». Chez Total, on refuse de commenter le courrier, mais on s'amuse du timing. Et l'on rappelle qu'Anne Hidalgo est en campagne électorale et brigue un deuxième mandat à l'Hôtel de Ville. Au comité d'organisation de Paris 2024, pas de prise de parole officielle. Un collaborateur de Tony Estanguet précise que des discussions sont certes en cours avec Total, mais aussi avec EDF ou Engie. La lettre d'Anne Hidalgo n'est pas qualifiée de recadrage, mais d'un exemple d'échange régulier et constructif entre la ville et le COJO.
En football, ce soir commence la 31e journée de championnat Bordeaux-Marseille. C'est à 20h45. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h. Aujourd'hui, fabriquer soi-même ses produits ménagers. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Il y a même à Lille une école où on peut apprendre à les fabriquer. C'est là que vous êtes rendu.
Oui, très précisément à Marquette-les-Lilles chez Starwax. Alors c'est une entreprise lilloise qui propose moyennant 15€ des cours pour fabriquer à peu près tout. Ça va du spray pour laver les vitres à la pierre pour nettoyer ses baskets. Et avec Julie Jousseau, eh bien, je me suis attaqué au classique des classiques.
Alors on va commencer par la lessive. Et vous allez voir, c'est tout à fait facile. En plus, on va utiliser des produits qui sont d'origine naturelle, hein, comme le savon de Marseille, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude qui est en fait une craie plus du sel combiné à du CO2. Le vinaigre, c'est de la betterave. Et le savon de Marseille, vous le connaissez, donc vous allez voir, c'est rapide, c'est facile et surtout c'est très économique. On va avoir un produit qui va regonfler les fibres du linge, qui va respecter les peaux sensibles.
Allez, montrez-moi comment je vais fabriquer ma lessive.
Alors c'est parti, donc là je vais vous demander de prendre le savon de Marseille et mettre...
Le savon de Marseille, voilà. Alors, c'est des petits copeaux.
On va mettre 7 cuillères à soupe. Donc, maintenant, on va mettre du bicarbonate de soude. C'est un abrasif doux. Et vous allez voir qu'il a des capacités donc, pour absorber les odeurs, pour raviver aussi les couleurs, pour adoucir l'eau. Donc, on n'aura même pas besoin d'utiliser un adoucissant.
Alors, ce bicarbonate de soude, j'en mets combien ?
Une cuillère à soupe. Donc là, on va rajouter
maintenant.
De l'eau.
On rajoute de l'eau.
Alors là, on va mettre 1,5 litre d'eau.
Alors on voit bien que ça ressemble déjà à de la lessive parce que ça mousse énormément.
Oui, tout à fait.
Alors Julie, on a fait beaucoup d'économies. Ça nous a coûté à peu près combien ?
5 fois moins cher, au moins 5 fois moins cher que des produits classiques.
Alors on l'a vu, par exemple, pour faire de la lessive liquide, il faut un certain nombre d'ingrédients. Avec tous ces ingrédients, on peut faire combien de litres de lessive liquide ?
Avec 500 grammes de bicarbonate, je vais pouvoir faire 400 machines. Donc effectivement, je peux faire beaucoup avec donc très peu d'ingrédients. Ingrédients et avoir une lessive tout aussi efficace. Hein. Bah moi, écoutez, ça fait 7 ans que je fais ma lessive moi-même et j'en suis très contente.
Bon, ça ressemble aussi un petit peu aux ingrédients de nos grands-mères, ça marche ou pas ?
Ah, complètement. Alors, j'ai testé dans une machine à laver classique, sans problème. En plus, il faut savoir qu'il n'y a pas dans cette lessive de produits toxiques comme les phtalates, le parabène. Enfin, si on fait le calcul, vos 400 lessives vous reviennent à 29€ contre plus d'une centaine d'euros pour des produits industriels. Bref, Bruno, c'est la synthèse réussie entre l'économie et l'écologie.
Vous me prendrez cette pile de chemises qui traîne ici en studio. C'est pour vous, j'attends qu'elle soit propre lundi. Merci
pas
Philippe.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Cet après-midi, les températures maximales afficheront des valeurs assez proches des moyennes de saison. Un bémol tout de même du côté de la Bretagne, de la Normandie et des Pays de Loire où sous la pluie, vous n'aurez pas plus de 11 ou 12 degrés avec 11 degrés à Brest, Cherbourg, Rennes et Nantes. Prévoyez 14 à 19 degrés ailleurs avec 14 à Lille, Reims et Orléans, 15 à Paris et Bordeaux, 16 à Lyon et Toulon, 17 à Limoges et Pau, 18 à Montauban, 19 à Perpignan comme à Clermont-Ferrand. Côté ciel, prévoyez des pluies parfois soutenues de la pointe du Cotentin à la Bretagne et tout le long de la façade atlantique. Elles seront parfois orageuses vers les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Demain, notre perturbation va s'étirer de la Bretagne à la région centre, du massif central au Languedoc Roussillon et jusque vers la région PACA. Prévoyez des averses orageuses dans le sud-ouest et du soleil partout ailleurs.